Morning Edition from NPR News.
Let's eat in San Peter House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Cisjordanie que je vous emmène où les Palestiniens ne veulent plus de leur chef, Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne qui n'a cessé de repousser les élections, qui ne voit plus son peuple, qui vire terriblement autoritaire, et c'est même au cri de dégage qu'on est sorti dans la rue tout récemment. On y va dans un instant. Le bruit du monde est en Hongrie ce soir, où entre en vigueur demain, mercredi, cette loi contre ce que Viktor Orban appelle la propagande homosexuelle. Fermez les guillemets, la loi secoue l'Europe. Elle inquiète surtout, évidemment, terriblement la communauté gay, pendant qu'elle est applaudie, en revanche, par les pro-Orban de Hongrie. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Maria Melkurdi a trouvé une attaque d'hippopotame sur le lac Victoria. Des vendeurs de chips en Afrique du Sud et une île verte en Grèce. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce qui nous amène à Ankara qui manifeste dans un défilé militaire en talons hauts et qui vous parlera aussi d'un bonnet de bain pour coupe afro interdite bassin. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et cette obligation vaccinale. Alors, quel pays secoue-t-elle aussi? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Asni Abidi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes à Genève. Votre dernier ouvrage, Asni Abidi, que vous avez dirigé, s'appelle Le Moyen-Orient, selon Joe Biden, dirigé aux éditions Éric Brunier. Je voudrais saluer Frédéric Mettezeau qui est avec nous aussi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Asni Abidi, le désamour entre Mahmoud Abbas et son peuple, il date pas d'hier. Mais il y a un certain nombre d'événements. Il y a un événement qui a été peut-être sinon déclencheur, qui a en tout cas cristallisé cette colère tout récemment, une colère qui n'est pas redescendue, c'est la mort d'un activiste, il s'appelait Nizar Banat, connu pour avoir posté des messages hostiles à l'autorité palestinienne sur Facebook, battu à mort. Est-ce que ça, c'est l'ultime signe? C'est fini, c'est terminé entre Mahmoud Abbas et la Cisjordanie désormais, et Mahmoud Abbas et son peuple surtout?
C'est vraiment l'étincelle pour ce soulèvement palestinien contre Mahmoud Abbas. On n'a jamais vu une telle violence de la part d'abord des policiers qui ont arrêté et torturé ce jeune activiste, et aussi cette violence de la jeunesse palestinienne qui, pour la première fois, demande le départ de Mahmoud Abbas. Oui, je confirme que c'est vrai que cet épisode est un épisode très très douloureux. Vous avez remarqué que même le hashtag qui a circulé en Cisjordanie, même ailleurs, le plus populaire, c'était le Khashoggi palestinien. Donc les Palestiniens sont arrivés jusqu'à faire la comparaison entre l'assassinat horrible de ce journaliste saoudien dans le consulat saoudien à Istanbul et l'assassinat de Nazer Barakat.
Et pour bien comprendre cette colère, je voudrais qu'on écoute justement un extrait de la manifestation qui a suivi la mort de Nizar Banat. C'était le 3 juillet dernier et c'est Alice Froussard qui a rencontré ces jeunes gens.
Ici, on ne peut parler à personne et on ne peut s'opposer à personne. Ceux qui parlent, on les fait taire. Ou on les tue, c'est ce qui est arrivé à Nizar. Et ce n'est pas la première personne qui est tuée par l'autorité palestinienne. Et ce ne sera pas la dernière. C'est pour ça qu'on est ici et qu'on demande à ce que les forces de sécurité et le président partent.
L'assassinat de Nizar Banat, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a une corruption énorme dans le gouvernement. Ils sont déconnectés. Ils ignorent ce qu'est la légitimité. Nous, on veut dissoudre le gouvernement et on veut des élections, pour que le peuple puisse choisir à nouveau ses dirigeants, car autrement ça n'a aucune valeur.
Asni Abidi, il y a des choses intéressantes dans ce que disent ces jeunes gens. Ils disent surtout que ce qui s'est passé là, c'est la phase émergée de l'iceberg. Depuis combien de temps l'autorité palestinienne a cette réputation-là, a cette détestation même de la part des jeunes palestiniens?
On peut parler presque depuis 12 ans, l'autorité palestinienne est souvent critiquée par les Palestiniens, ceux bien sûr de la Cisjordanie, évidemment ceux aussi de Gaza. En quelque sorte, c'est le leadership exercé par Mahmoud Abbas qui contestait. C'est un homme politique qui est maintenant complètement périmé, entouré par une garde, représenté par le Fatah, et sous justement cet habillage de l'autorité palestinienne, un résultat d'Oslo, et en quelque sorte considéré par aussi les Palestiniens comme un sous-traitant pour les Israéliens, et qui ne représente plus la cause palestinienne. On assiste vraiment à une nouvelle génération qui ne se reconnaît pas dans cette génération d'Oslo, et qui ne se reconnaît pas aussi dans les pratiques de corruption et de la non-représentativité de l'autorité l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, 86 ans, je pense qu'il est complètement dépassé d'abord par la garde du Fatah, qui a trouvé justement dans cette lutte palestinienne aussi un fonds de commerce, et aussi dépassé par des services de sécurité qui sont devenus omniprésents dans la gestion des affaires palestiniennes. D'ailleurs, les Palestiniens les appellent donc le système Dayton, à référence à ce général américain qui a formé cette police.
On va revenir à ce que vous disiez à l'instant sur le chef périmé, sur la génération aussi des Palestiniens, Hassni Abidi. J'ai quand même une question juste avant. Vous disiez que ça fait une douzaine d'années. Oui, depuis 2009, on va dire globalement, le moment où normalement le mandat de Mahmoud Abbas devait se terminer. S'il n'y a pas eu d'élection jusque-là, est-ce que on parle de crainte politique, notamment de voir monter le Hamas ou de choses comme ça, ou est-ce qu'on parle aussi, ou est-ce qu'on parle surtout d'ego en fait? Parce qu'on entend des mots qui disent qu'il est devenu autocrate, ce Mahmoud Abbas, qu'il est devenu presque despote. Est-ce que c'est l'ego qui parle chez lui, ou est-ce qu'il y a une crainte politique derrière qu'il faut quand même souligner?
Il y a tout ça. Il y a l'usure d'abord du pouvoir. Le deuxième élément, c'est vrai que les Palestiniens, de l'autorité palestinienne, du mouvement du Fatah, sont conscients de la popularité qui ne cesse de grimper du Hamas. Et pour eux, une nouvelle élection législative ou présidentielle va signer leur départ. Et c'est pourquoi, dans leur objectif et dans leur intérêt, c'était le report des élections. Mais malheureusement, c'est un mauvais calcul, parce que le report des élections a encore, à mon avis, causé des difficultés pour Mahmoud Abbas.
Et Frédéric Mettezo, vous y étiez, vous, en Cisjordanie, évidemment, il n'y a pas très longtemps. On a entendu tous ces gens qui disent qu'ils ne peuvent plus rien poster sur Facebook, que les opposants sont arrêtés, que le pouvoir refuse l'opposition. La bascule, vous la situez précisément fin avril, quand pour la xème fois, probablement la dernière fois, il a été décidé de reporter les élections.
Oui, c'est ça, c'est le 29 avril. Dans la soirée, Mahmoud Abbas annonce que les élections sont reportées officiellement parce que les Israéliens ne souhaitaient pas laisser voter les Palestiniens de Jérusalem-Est à ces élections générales. Mais en fait, on sait que c'est plutôt pour des raisons de politique intérieure. Et ce soir-là, en effet, j'étais à Ramallah. Il y avait plusieurs centaines de Palestiniens qui étaient dehors et qui dénonçaient la corruption, l'autoritarisme, qui disaient « dégage ». On était à quelques centaines de mètres de la Moukata, et c'est vrai que on était à l'époque en plein Ramadan. Les manifestations à Jérusalem-Est, notamment dans le quartier de Sharjara, avaient déjà commencé, et ça n'empêchait pas des Palestiniens de manifester contre leur autorité palestinienne, même si ça pouvait donner l'image d'une espèce de division, une forme de deuxième front qui s'ouvrait, une forme de front intérieur. Ils sont descendus pour dire non, et c'est vrai que c'était un mois où on a vu une bascule. Juste quelques jours avant cette annonce, on a eu aussi un événement assez important, assez intéressant. C'est Facebook, donc le grand réseau social américain, qui a annoncé qu'il avait fermé des faux comptes Facebook qui étaient en fait reliés à l'autorité palestinienne. Et en fait, ces faux comptes, ils étaient faits pour attirer des journalistes et des opposants, des voix critiques à l'autorité palestinienne, pour leur fixer des faux rendez-vous et ensuite les arrêter. Il y a eu deux moments très importants, en effet, au mois d'avril.
Et ce qu'il faut dire aussi, Frédéric, c'est que désormais, Mahmoud Abbas, il ne sort plus. Il est enfermé dans le bunker de la Moukata. Il ne descend plus. Donc dans les rues de Ramallah ou d'ailleurs, il ne va pas à Gaza, il n'a pas été à Gaza depuis plusieurs années, même probablement.
Depuis 15 ans.
Voilà, depuis 15 ans. Pardon de le dire comme ça, mais qui, en dehors de ses collaborateurs, a vu récemment Mahmoud Abbas?
Alors le roi de Jordanie, puisqu'il a fait une visite surprise la semaine dernière, j'ai même vu passer, si vous voulez savoir, son hélicoptère au-dessus du bureau France Inter ici à Jérusalem. C'est des sorties très très rares. Effectivement, Mahmoud Abbas, de temps à autre, il fait un discours télévisé, on dirait presque, vous savez, un mannequin de cire qui débite un peu mécaniquement un discours. Il gouverne avec en fait deux personnes, Hussein Al-Sher, qui est le ministre des Affaires civiles, et puis le tout-puissant Majed Farage, qui est le chef des services de renseignement intérieur dont parlait Monsieur Abidi il y a quelques instants. Même les diplomates européens me confient que on voit plus beaucoup Mahmoud Abbas. Il se montre pour les ministres des Affaires étrangères ou pour les premiers ministres ou présidents qui viennent de l'étranger. Mais effectivement, Mahmoud Abbas, il est reclus dans ce qu'on appelle la Moukata, son palais présidentiel.
Hassni Abidi, vous parliez tout à l'heure de ce chef périmé. Ce qu'on entend dans les manifestations, c'est « dégage ». Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce mot dégage nous rappelle tellement le démarrage des révolutions arabes. On entend que tombe l'autorité d'Oslo. Donc on entend toute une génération qui ne sait même plus ce que c'est. D'abord parce que ça a été un échec, mais surtout parce que ça date d'il y a extrêmement longtemps. Et quand on regarde même les noms qui peuvent éventuellement être les successeurs de Mahmoud Abbas, on entend cette vieille génération-là. Est-ce que le problème ne commence pas exactement ici, en fait ? Il n'y a pas de relève palestinienne.
C'est le grand drame de la gestion Mahmoud Abbas, c'est qu'il a tout verrouillé. Il n'a laissé aucune autre alternative émerger. Il faut rappeler que les Palestiniens et cette nouvelle jeunesse, c'est-à-dire ceux jusqu'à qui ont 30 ans, n'ont connu que Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas avait un poste important puisqu'il était l'ombre de Yasser Arafat. Mmh. Donc c'est un homme qui a fait toute sa carrière au sein du Fatah, au sein de l'autorité palestinienne. Il a réussi bien sûr à éliminer toute contestation politique au sein du Fatah, même au sein de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, on vient presque à dire que le seul contre-pouvoir, bien sûr, c'est le mouvement de Hamas qui, aujourd'hui, profite de cette séquence de Mahmoud Abbas et il devient véritablement le représentant unique de ces Palestiniens. Et je pense que Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne ne sont pas très contents de ce qui se passe aujourd'hui, depuis les derniers événements entre Gaza et Israël.
Où ils ont été complètement absents, où Mahmoud Abbas a été particulièrement absent. Vous le disiez tout à l'heure, la réputation d'ailleurs qu'il a, c'est que de toute façon, il ne peut pas bouger le petit doigt sans demander l'autorisation à Israël. C'est aussi comme ça qu'on le caricature, mais c'est quand même assez vrai, non ?
C'est le seul soutien aujourd'hui de Mahmoud Abbas, c'est Israël, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que cet activiste Nezer Barakat, qui est un ancien d'ailleurs militant du mouvement Fatah, et qui est devenu un grand critique de Mahmoud Abbas, donc critique de son autoritarisme, la corruption, etc., il a été arrêté dans ce qu'on appelle la zone C. Et on ne peut pas pénétrer en tant qu'agent palestinien des services de renseignement dans la zone C s'il n'y a pas une collaboration, ou on n'a pas laissé aller des policiers israéliens. Et c'est pourquoi les Palestiniens sont furieux, parce qu'ils pensent que non seulement cette autorité, elle est corrompue et elle n'est plus représentative du peuple palestinien, elle ne veut pas que les Palestiniens s'expriment d'une manière démocratique, et en plus, elle sous-traite l'arrestation de certains Palestiniens. On parle de Nezer Barakat, mais il y en a plusieurs journalistes qui sont aussi arrêtés. On a l'impression qu'il y a presque un partage de rôle, où on a l'impression aussi que Israël parfois sous-traite ses arrestations à l'autorité palestinienne, ce qui est vraiment grave pour les Palestiniens.
Tout à l'heure, Frédéric Mettezo décrit Mahmoud Abbas comme ce dirigeant, cet homme au visage de cire. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'Algérie, par exemple, et ce qui a pu se passer ces derniers mois et la manière dont ils regardaient leurs dirigeants. On est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, évidemment, mais ni dans le même genre de pays, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Est-ce qu'il peut y avoir aussi une forme de soulèvement de population palestinienne en Cisjordanie, ou est-ce qu'on n'est pas du tout, là ?
Et vous savez, on est dans une séquence commune, c'est la déconnexion. Mahmoud Abbas est complètement déconnecté de la réalité de son peuple palestinien. C'est vrai que l'homme il est très âgé, mais il souffre de plusieurs maladies, on le sait. Il se soigne d'une manière régulière. Et justement, l'âge et son affaiblissement profitent justement à un certain conflit autour de Mahmoud Abbas, ce qui montre que l'autorité palestinienne aujourd'hui, elle est gérée que par une aile sécuritaire, ce qui n'est pas du tout l'urgence des Palestiniens aujourd'hui.
Et alors, il faudra bien quand même... Qu'est-ce que vous nous dites, en fait, Hassani Abidi ? Est-ce que ça veut dire que, comme on sait qu'il est vieux et malade, on attend qu'il meure aussi cyniquement que ça, et puis on voit ce qui peut se passer derrière ? Est-ce qu'il peut être renversé avant ? Il faudrait bien quand même qu'à un moment, des élections aient lieu. Donc, ce qui va se passer là, ce que vous projetez, vous, dans les prochains mois, ressemble à quoi ?
Il y a une pression qui est très intéressante. C'est rare que l'administration américaine critique Mahmoud Abbas, mais le dernier communiqué de secrétaire d'État qui parle d'arrestation et aussi un usage disproportionné de la violence contre les manifestants montre que Mahmoud Abbas, qui a voulu draguer en quelque sorte l'administration Biden pour faire oublier ses mauvaises aventures avec l'administration Trump, il a même échoué dans cette tentative. Donc un président qui a des difficultés avec sa propre population, tensions, avec un mouvement plus important, Hamas, aussi avec certains pays voisins. Mm-hmm. Je pense que un soulèvement, ou disons que plusieurs manifestations, ce qui est le cas, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Ramallah, risque de pousser finalement ceux qui soutiennent encore Mahmoud Abbas au sein du Fatah et au sein de l'autorité palestinienne de lui demander de partir.
Et encore là, est-ce qu'il y a des noms quand même à Sniabidi? Parce que tous ceux qui sortent, on a l'impression qu'ils sortent aussi des années 80, de l'époque d'Arafat, des guerres israélo-palestiniennes et de la première intifada. On entend parler des Mohamed Darla, des Salam Fayyad, des Marwan Barghouti depuis si longtemps. Tous ces gens sont familiers de l'histoire palestinienne, certainement pas, j'imagine, de la jeunesse palestinienne, non?
Ben c'est vrai que donc quand vous prenez par exemple la liste des membres du Conseil palestinien, ou prenez même le bureau politique de Fatah, il est très difficile de trouver des hommes ou des femmes qui représentent la nouvelle génération palestinienne, parce que leur promotion est très difficile. Cependant, l'autorité palestinienne, elle peut très bien, par exemple, procéder à la nomination d'un technique, comme elle a fait avec Salam Fayyad, qui est plutôt un économiste, ou avec une autre personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les Palestiniens peuvent très bien passer outre une certaine légitimité historique, parce que le contexte a changé et les revendications ont changé.
Merci beaucoup, merci vraiment à Sniabidi, merci d'avoir été avec nous dans Un jour dans le monde, et je vous salue aussi Frédéric Mettezo avec nous depuis Jérusalem.
Au revoir.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite, ça se passe en Hongrie ce soir avec cette loi contre toute propagande homosexuelle. Fermez les guillemets, une loi qui interroge évidemment toute l'Europe, qui la met en émoi, qui entre en vigueur demain et qui divise surtout évidemment aussi les Hongrois. On verra ça dans un instant. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Mariam El Kurdi.
Eh bien, nous irons notamment au Kenya. On parlera d'une cohabitation de plus en plus difficile entre les hommes et les hippopotames.
Passons genre dans le monde. Et Julia Foyes qui nous parlera notamment d'un bonnet de bain pour coiffure afro qui est interdit par la Fédération internationale. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. La France n'est pas le seul pays à s'interroger sur l'obligation vaccinale, avec un risque élevé de tensions sociales entre vaccinés et non vaccinés.
À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par l'île de Wight. C'est de là que sont originaires les chanteuses de Wet Leg. Et la chanson s'appelle « Chaise longue ».
Thank you.
Le bruit du monde ce soir est en Hongrie. La Hongrie et sa loi qui met le feu à l'Union européenne, loi signée Viktor Orban. Elle entre en vigueur demain mercredi. Le texte, initialement consacré à la lutte contre la pédophilie, fait un amalgame terrible avec l'homosexualité. Il bannit donc des médias et des écoles toute représentation de l'homosexualité ou du changement de genre. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 10 ans, le Premier ministre hongrois mène une politique pro-famille, ça n'est pas une surprise, mais elle vire à la discrimination contre toute la communauté LGBT, qui bien sûr s'inquiète pendant que l'électorat d'Orban applaudit. Le reste, c'est Louise Baudet qui raconte.
Nous sommes dans les beaux quartiers de Budapest, à deux pas de l'imposant parlement néo-gothique planté au bord du Danube. Mise soignée et laisse de ses chiens de race à la main, Gabriella fulmine.
Ce qui est déviant, ce qui est anormal s'impose partout. Vous trouvez ça bien, vous, qu'un transgenre aille raconter des contes de fées à des enfants de maternelle? Ça va leur faire peur, qu'est-ce que c'est que ça? Personne ici n'est contre les homosexuels, notre constitution protège leurs droits. Mais la presse libérale de gauche transforme la réalité. Et l'Europe occidentale gobe cette propagande.
Défense de la famille, guerre culturelle avec l'Occident, à moins d'un an des prochaines élections législatives, le narratif développé par Viktor Orban fonctionne à plein régime. Gardant un œil sur sa petite Mimi, 4 ans et demi, qui joue avec les jets d'eau, Akos Rotradzi, député indépendant, ne peut que constater les dégâts. Après les migrants, les personnes LGBT sont les nouveaux boucs émissaires de Viktor Orban.
Avant, la Hongrie était un pays hospitalier. Il n'y avait pas de haine des migrants. Mais après la campagne massive qui a été menée, 78% des Hongrois ont placé cette peur en premier. Et ça s'est fait en quelques mois. Alors ça peut être les migrants, l'Europe, les gays, qu'importe. Ce qui compte, c'est de haïr quelqu'un. Mais Bruxelles et les migrants sont loin, alors que les gays font partie de ce pays. C'est pour ça qu'ils sont en danger.
Quitter la Hongrie? Oui, c'est très probable. Il y a des élections l'an prochain. On va voir comment ça évolue. Mais si personne d'autre n'arrive au pouvoir, oui, je partirai sans doute.
J'ai pas encore peur, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, s'il n'y a pas de changement de gouvernement l'année prochaine, c'est sûr et certain que moi-même, je vais réfléchir à déménager de la Hongrie avec ma copine, oui.
J'ai mon âge, je n'ai pas 20 ans. Je ne veux pas recommencer ma vie à partir de zéro dans un autre pays. Donc il faut que je reste et il faut que je lutte.
S'exiler pour vivre librement sa sexualité, mais aussi élever un enfant, c'est précisément le choix fait il y a 20 ans par Arkadiusz Karski, que l'on rencontre sous la tonnelle rafraîchissante d'Aurora, un café alternatif et gay-friendly de Budapest.
En 2001, je suis venu de Pologne, d'un pays arriéré, pour m'installer dans un pays occidental, qui était à l'époque en avance dans le domaine des familles atypiques, aux familles arc-en-ciel. Point par point, le gouvernement Orban peut enlever toutes les avancées civilisationnelles.
Plus libéral qu'on ne le pense, la Hongrie a dépénalisé l'homosexualité 20 ans avant la France et un partenariat civil y existe depuis 2009. Mais le détricotage opéré par le parti au pouvoir, le Fidesz, s'est accéléré ces derniers mois, de l'interdiction du changement de genre dans l'état civil à l'adoption rendue impossible pour les couples homosexuels.
C'est précisément ce qu'ils veulent, faire disparaître les LGBT et tout ce qui les concerne, des médias et des écoles.
Aaron Demeter est directeur de programme pour Amnesty International Hongrie.
On les bannit en leur envoyant ce message: vous n'êtes pas de vrais Hongrois, vous n'appartenez pas à notre communauté, parce que vous êtes une menace pour nos enfants. C'est terrible. On voit déjà des brimades, des agressions dans la rue, et je suis convaincu que ça va s'aggraver.
C'est donc moins la loi elle-même qui inquiète que le climat qu'elle instaure, hypocrisie comprise, en témoigne le scandale déclenché par cet eurodéputé Fidesz, surpris l'hiver dernier dans une partie fine gay à Bruxelles, interdite pour cause de pandémie. L'objectif poursuivi par Viktor Orban est d'ailleurs moins civilisationnel que politique. Le leader national populiste veut mobiliser l'électorat conservateur, mais aussi fracturer son opposition, unie contre lui, divisée sur cette loi. Le Jobbik, parti de droite extrême, l'a voté, pendant que le centre et la gauche l'ont boycotté. Et puis, autre but de l'opération, tout simplement faire diversion.
Avec cette loi, il veut détourner l'attention des 30 000 morts du Covid, de sa gestion calamiteuse de la pandémie. Et sur tous ces crimes, de la corruption, du pillage massif des fonds européens, il ne veut pas qu'on parle de ça.
Et de fait, ce n'est pas ça qui vaut à Viktor Orban les foudres de l'Union européenne, mais bien le sort réservé aux personnes LGBT, moyen pour lui d'asseoir son pouvoir en Hongrie et de développer son influence sur la scène européenne.
Louise Baudet en reportage en Hongrie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Louise. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Et Mariam El Kurdi, vous nous emmenez d'abord au Kenya. On est même sous l'eau.
Oui, nous sommes sur un petit bateau de touristes en promenade sur le lac Victoria. Mais l'ambiance, Fabienne, n'est pas du tout paisible. Elle est même plutôt angoissante. La scène est filmée par un guide touristique. On voit un hippopotame nager droit vers nous. Vidéo virale sur les réseaux. Je vous rassure, le bateau à moteur a réussi à filer. Les hippopotames sont potentiellement dangereux, on le sait, mais selon le quotidien italien La Repubblica, ils sont devenus au Kenya des ennemis publics qu'on envisage d'éliminer. Ils seraient devenus trop nombreux dans la région du lac Naivasha, au nord de Nairobi. Et ces derniers temps, ils attaquent de plus en plus souvent les pêcheurs et les paysans de la région. Un reportage diffusé sur France 24 il y a 2 ans soulignait déjà une cohabitation difficile entre les hommes et les hippopotames au Kenya, alors que les pachydermes sont essentiels à la préservation de la biodiversité. Paola Kaumbu est responsable de l'ONG Wildlife Direct.
What we're seeing, which is really devastating hippos, is overgrazing of the pastures where the hippos need to go.
On assiste à quelque chose de dévastateur pour les hippopotames, explique-t-elle. Les herbages où ils se nourrissent sont surpâturés. Si vous allez dans le parc national de Nairobi, vous verrez cela près des plans d'eau des hippopotames. Ce n'est pas à cause d'eux, explique-t-elle, mais à cause du bétail. Et elle ajoute que nous assistons à l'élimination de la nourriture des hippopotames. Et ils meurent de faim. La cohabitation avec les hommes est devenue encore plus difficile récemment avec les effets du réchauffement climatique et la crise sanitaire. Les pluies font déborder le lac et la proximité hippopotame-homme s'est accentuée. D'autre part, la pandémie a entraîné la destruction de nombreux emplois, notamment dans l'horticulture. Beaucoup d'horticulteurs se sont reconvertis dans la pêche. Les pêcheurs empiètent sur le territoire des hippopotames et vice-versa. Selon La Repubblica, toujours, l'armée s'oppose à tuer les animaux pour l'instant. Mais si les eaux du lac continuent de monter, l'abattage pourrait devenir inévitable.
Et nous allons en Afrique du Sud, où les vendeurs de chips sont devenus les grands gagnants de la ruée vers les diamants.
Oui. Des centaines de Sud-Africains se sont lancés le mois dernier dans une quête effrénée de diamants après une découverte supposée d'une de ces pierres scintillantes dans le village de Kualati, à l'est du pays. Un berger serait tombé dessus, mais avec des pelles à main nue ou même des fourchettes, des hommes se sont mis à creuser la terre. Parmi les chercheurs de pierres précieuses, Chumbuzo Mbele.
Je n'ai jamais vu ou touché de diamant auparavant dans ma vie. C'est la première fois que j'en touche, dit-il, espérant qu'il s'agisse vraiment de diamants. Et il ajoute, j'espère que ça changera la donne à la maison parce qu'on galère vraiment beaucoup.
Malheureusement, aucune de ces pierres n'a été authentifiée comme étant un diamant. Il s'agit plutôt de cristaux de quartz, selon les experts. En revanche, selon la presse sud-africaine, les vendeurs à la sauvette, eux, se sont enrichis. Une marchande raconte qu'elle a eu plus de chance que les chercheurs de diamants. Elle a gagné, dit-elle, un bon paquet d'argent en leur vendant du pain et des chips. Une autre raconte qu'elle n'a pas chômé en vendant des hot-dogs et du thé. Alors pourquoi cette quête sans relâche, malgré le peu d'espoir ? D'une part, la crise économique aggravée par la pandémie. Une personne sur trois souffre du chômage en Afrique du Sud, un triste record dans le pays. D'autre part, il y a peut-être ce mythe qui est resté dans l'esprit de certains Sud-Africains. Rappelons que c'est à Pretoria qu'a été découvert le plus gros diamant de l'histoire. C'était en 1905.
Allez, direction et pour finir la Grèce, Mariam, sur une île paradisiaque et écolo.
Fabienne, nous sommes sur l'île paisible de Tilos, en mer Égée.
Et on a de la chance.
780 habitants, une île en forme de papillon, à cheval entre l'archipel du Dodécanèse et celui des Cyclades. Paysage qui fait rêver à l'approche des vacances. Il y a le soleil, la mer, mais aussi les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. L'île est la première de Méditerranée à produire la quasi-totalité de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Vassilis Oikonomou, 46 ans, est propriétaire d'un snack bar et il applaudit des deux mains la quasi-autonomie en énergie. C'est l'avenir, dit-il. C'est bien que l'énergie verte parte de si petites îles pour que nous puissions être indépendants et nous libérer du pétrole et de tout ce qui pollue l'environnement, ajoute-t-il. Tilos vient de remporter le 3e prix européen de la meilleure transition énergétique après des îles danoises et espagnoles. L'île verte est une pionnière. Sa mère veut donner l'exemple aux autres îles grecques environnantes. Et certaines ont déjà commencé à s'inspirer de Tilos.
Mariam El Kurdi pour Sous les radars. Merci beaucoup Mariam. À demain. Et mesdames, messieurs et autres gens, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Et ce qu'on entend là, c'est le bruit qui fait la rue à Istanbul régulièrement depuis 3 mois.
Nous n'avons pas peur, nous n'obéirons pas. Voilà, ça, c'est ce que martèlent des milliers de femmes dans les rues d'Ankara depuis le printemps dernier. Ce que vous entendez là a été tourné jeudi 1er juillet, la semaine dernière, date à laquelle la Turquie est officiellement sortie de la Convention d'Istanbul. C'était pourtant chez elle que, il y a 10 ans, le Conseil de l'Europe donnait naissance au traité international le plus ambitieux en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ratifié à ce jour par 34 pays, il prévoit la mise en place et la coordination d'un train de mesures allant de la création de centres d'hébergement pour les victimes à la mise en place de numéros d'urgence, en passant entre autres par de vraies politiques de prévention. Première à ratifier le texte, la Turquie est aujourd'hui seule à s'en être désengagée. Argument invoqué, la convention viserait à normaliser l'homosexualité, contraire aux valeurs familiales du pays. Les ONG du monde entier partagent l'inquiétude des manifestantes. Comme un peu partout dans le monde, les violences domestiques ont flambé depuis le début de la pandémie. Sur la seule année 2020, 266 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints.
On enchaîne, Julia, avec l'objet de la semaine.
Il est tout rond, il est mignon, a priori assez inoffensif et pourtant stop, la Fédération Internationale de Natation vient de lui dire non, non à ce bonnet de bain adapté aux coiffures afro. Pourquoi ? Eh bien parce que ça ne correspond pas, je cite, à la forme naturelle de la tête. Et c'est marrant parce que cet argument du naturel fonctionne à peu près sur le même mode que son cousin, l'universel. Officiellement, on veut gommer les disparités, en pratique, on fait rentrer tout le monde dans le moule, tant pis pour ceux qui ne le peuvent pas. Aucun athlète, poursuit la Fédération, n'a jamais eu besoin de porter ce type de bonnet. Alors, toujours pareil, avec cette sombre histoire d'œufs et de poules, accrochez-vous Fabienne, est-ce qu'il n'y a pas de bonnet afro en compétition parce qu'il n'y a pas de nageurs noirs, ou bien est-ce qu'il n'y a pas ou peu de nageurs noirs parce qu'il n'y a pas d'équipement adapté? Ce qui est sûr, d'après la marque qui produit le bonnet, c'est que s'ils n'avaient pas à choisir entre la piscine et leurs cheveux, ils seraient sans doute beaucoup plus nombreux dans le grand bain et avec vous, Fabienne. Mm-hmm. Au Royaume-Uni, 5% des adultes seulement et 20% des enfants nagent régulièrement. Alice Deering a fait mentir les statistiques. Depuis le mois de juin, elle est la première nageuse noire à représenter le Royaume-Uni au JO. Pour Tokyo, elle avait demandé à pouvoir homologuer ce bonnet et c'est donc à elle qu'on a directement dit non. Interrogée par le Guardian, elle réagit. On parle de décennies de racisme culturel et institutionnel qui s'est immiscé jusque dans la natation. Alors ouais, on peut se dire qu'elle exagère, que ça n'est qu'un détail, un bout de tissu sans importance, jusqu'à ce qu'on se souvienne que, un peu comme pour le burkini, hein, les vêtements ont tous une histoire et qu'ils en disent autant sur ceux qui le portent que sur ceux qui n'en veulent pas.
Et puisqu'on parle chiffon, Julia, on termine avec l'image de la semaine.
Parfaitement alignées en casquette camouflage, treillis et talons hauts, elles étaient la fierté du ministère de la Défense ukrainien. Cette photo publiée sur sa page Facebook officielle montre les femmes des armées répétées pour le 30e anniversaire de l'indépendance du pays, prévu fin août, avec donc cette petite innovation hein, des escarpins aux pieds. On s'entraîne et on fait de notre mieux, précise l'une des recrues en commentaire, mais c'est un peu plus difficile qu'avec des bottes de combat. Sans blague. C'est un peu l'idée des talons, c'est-à-dire sublimer le corps des femmes et entraver légèrement leur déplacement dans l'espace public. L'initiative jugée au mieux ridicule, au pire profondément sexiste, a provoqué le tollé sur les réseaux sociaux. Des députés de l'opposition sont allés déposer des chaussures à talons au pied du ministre de la Défense présent ce jour-là dans l'hémicycle, lui suggérant de les porter lui aussi le jour de la parade. La vice-présidente du Parlement a demandé aux autorités des excuses publiques. Quant à savoir si les femmes de la marine, elles, iront défiler en bi ou en trikini, réponse fin août.
Merci beaucoup, Julia Foyce, tous les mardis dans Un jour dans le monde. Allez, Bob Marley nous attend. Waiting in vain. Il nous a pas attendu en vain, le Bob. C'est quand il veut. Il veut.
Gonna come see. I don't wanna. but your love is my relief.
Waiting in Vain et Bob Marley sur France Inter.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. Comme chaque soir, Jean-Marc, le débat monte en France sur l'obligation vaccinale contre le virus, au moins pour les soignants, au moment où l'essor du variant Delta vient se combiner au net ralentissement des premières injections. Ce débat existe dans plusieurs pays et il est difficile à trancher. Le sanitaire entre en conflit avec le droit, le tout en lien avec la cohésion sociale. Et c'est votre Monde d'après.
La première option, c'est la coercition, donc vaccination obligatoire pour atteindre les 75 à 80% de la population vaccinée, garantie de l'immunité collective, on a compris. Très rares sont les États à l'appliquer. Le Vatican, le Tadjikistan en Asie centrale et l'Arabie saoudite à partir du 1er août dans une formule indirecte qui se résume par pas de vaccin, pas de boulot. Ensuite, il y a la version allégée, l'obligation uniquement pour les soignants, en vigueur en Italie depuis le mois de mai, programmée pour l'automne en Australie et au Royaume-Uni, partiellement appliquée en Russie et au Kazakhstan, mais là encore, à une liste réduite, on n'y trouve même pas des régimes familiers, des mesures autoritaires type Chine ou Vietnam. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Bon, et de un, le débat est évidemment prématuré dans tous les pays qui n'ont pour l'instant un accès limité au vaccin. Et de deux, l'obligation vaccinale soulève des risques juridiques. Elle entre en contradiction avec la liberté individuelle de disposer de son corps. Et si jamais des effets secondaires apparaissaient à l'avenir, les procès se multiplieraient. Donc les États ne sont pas prêts à courir ce risque. Enfin, et de trois, les conséquences sanitaires pourraient être contre-productives, déclenchées par effet boomerang, si vous voulez, un rejet de tous les vaccins par résistance à la coercition.
Donc, si on ne peut pas forcer, il reste que la persuasion, Jean-Marc.
Ça, c'est la deuxième option. Le code social dominant rend la vaccination incontournable. Vos proches, vos amis, vos collègues, les pouvoirs publics, tous disent la même chose, vaccinez-vous. Et il est frappant de constater que les pays à fort taux de vaccination sont souvent caractérisés par un civisme fort, où le collectif existe autour de certaines valeurs, par-delà les désaccords. L'exemple flagrant, c'est Israël. Le succès de la vaccination doit beaucoup à l'efficacité de son organisation, bien sûr, mais aussi à la solidité du collectif. Et ce civisme explique aussi sans doute que le Royaume-Uni, les pays scandinaves, le Canada, la Belgique possèdent aujourd'hui des taux de vaccination de 10 voire 20 points supérieurs à celui de la France. Par exemple, 71% de primo-vaccinés au Québec. Il y a une variante d'ailleurs de cette formule de la pression sociale. Ce sont les pays où la population accepte très majoritairement que des sanctions soient imposées aux personnes non vaccinées. Elles sont pas contraintes d'accepter les injections, mais leurs mouvements sont limités. Pas d'accès aux loisirs, au cinéma, au restaurant. C'est le cas en Irlande, en Autriche, au Danemark. Mais c'est une discrimination qui va à l'encontre de l'égalité de tous devant la loi. Donc là encore, il y a un risque juridique.
Et donc Jean-Marc, la France se situe comment là dans tout ça ?
Alors, la France fait partie de ces pays, c'est pas le seul, hein, où le civisme est très relatif, la cohésion sociale très fissurée, on l'a bien compris. Dans ces pays, le débat sur l'obligation vaccinale pourrait accroître les tensions sociales entre vaccinés et non vaccinés. Les premiers, les vaccinés, ne sont pas disposés à accepter de nouvelles restrictions potentiellement provoquées par une résurgence épidémique due à l'attitude des seconds, les non vaccinés. Plusieurs lignes de fracture pourraient se creuser entre jeunes et moins jeunes. Les 20-40 ans sont les moins vaccinés et les plus concernés par la remontée des cas. Ça promet quelques empoignades, soit dit en passage, empoignades estivales dans les repas de famille. Mmh. Entre populations pauvres et marginalisées et populations plus aisées et désireuses de circuler, les premières restent souvent à l'écart des campagnes de vaccination. Les secondes veulent renouer avec le tourisme pour l'été. Et puis aussi, bien sûr, entre anti-vaccins et pro-vaccins. Dans la première catégorie, on retrouve les extrêmes complotistes et souvent les radicaux religieux. Un exemple révélateur, les États-Unis. Les États du Sud, souvent baignés d'obscurantisme évangélique, sont très en retard sur la vaccination. 40% en Louisiane, en Alabama, dans le Mississippi, contre 75% en Californie ou à New York. Alors comment éviter d'accentuer les divisions sociales tout en poussant à la vaccination? Pas simple. Au Canada, aux États-Unis, on teste des solutions originales, hein, des cadeaux en contrepartie de l'injection, une bière gratuite dans le New Jersey, une entrée pour un match de baseball à New York, une visite du circuit de Formule 1 à Montréal. Tout ça paraît farfelu, mais si ça permet d'éviter les tensions sociales, c'est pas si absurde que ça.
Vous avez vu à Londres, un vaccin, une place en tirage au sort pour la finale de l'Euro.
Pas mal.
Eh ben voilà, ça peut avoir une certaine allure. Merci beaucoup Jean-Marc Four, évidemment, vous revenez demain dans un instant, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Roussel. Juste après, il y aura bien entendu le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous. Ne bougez pas, ne changez rien.